Chapitre 5. Les derniers jours d'octobre avaient été pluvieux et novembre se revêtait déjà des sombres couleurs de l'hiver. Stein se promenait devant le couvent, d'où l'on apercevait une perspective immense mais monotone. À droite, la mer sans limite, à gauche, un désert sans fin. Au milieu, se dessinait sur le fond clair de l'horizon le profil sombre des ruines du fort de Saint-Christophe, semblable à l'image du néant au milieu de l'immensité. La mer, que n'agitait pas le moindre souffle, se balançait mollement, soulevant sans effort ses vagues dorées par les reflets du soleil, comme une reine qui laisse flotter son manteau d'or. Le couvent, avec la sévérité de ses grandes lignes, était en harmonie avec le grave et tranquille paysage. Sa masse cachait le seul point de l'horizon qu'on n'aperçut pas dans ce panorama un peu monotone. Sur ce point se trouvait le village de Villamar, situé près d'une rivière aussi gonflée et turbulente en hiver que mal pourvue d'eau en été. Les alentours, bien cultivés, présentaient de loin l'aspect d'un damier dont les carrés offraient toutes les nuances de la verdure. Ici, le ton jaunâtre de la vigne, encore couverte de feuillage, ou le vert cendré de l'olivier. Là, le vert d'émeraude du blé qu'avaient fait lever les pluies d'automne. Ailleurs, le vert sombre du figuier. À toutes ces nuances, il faut joindre le vert bleuâtre des ais d'aloès. Dans la passe étroite de la rivière se croisaient quelques barques de pêcheurs. Du côté du couvent, une chapelle s'élevait sur une colline. Au-devant se dressait une grande croix supportée par un socle de forme pyramidale en maçonnerie blanchie à la chaux. Derrière se trouvait une enceinte où le sol était couvert de croix peintes en noir. C'était le Campo Santo, le cimetière. Devant la croix était suspendue une lanterne toujours allumée et la croix, emblème de salut, servait ainsi de phare aux marins, comme si le Seigneur eût voulu rendre, pour ainsi dire, palpables ses paraboles à ces simples campagnards, comme il se montre lui-même tous les jours, palpable aux hommes d'une foi humble et forte, qui sont dignes de cette grâce. On ne pourrait comparer cet aride et monotone paysage aux vallées de la Suisse, au bord du Rhin ou aux côtes de l'île de Wight. Du reste, il y a une magie si puissante dans les œuvres de la nature qu'aucune ne manque de beauté ni d'attrait. Il n'y en a pas une qui soit dépourvue d'intérêt, et si quelquefois les paroles manquent pour expliquer en quoi il consiste, l'intelligence le comprend et le cœur le sent. Pendant que Stein faisait ses réflexions, il aperçut Momo qui sortait de la maison et se dirigeait vers le village. En voyant Stein, il lui proposa de l'accompagner. Celui-ci accepta et tous deux se mirent en marche dans cette direction. La journée était si belle qu'on ne pouvait la comparer qu'à un diamant de l'eau la plus pure, du plus vif éclat et dont la beauté n'éternit par aucun défaut. L'âme et l'oreille reposaient doucement au milieu du profond silence de la nature. Sur le bleu foncé du ciel, on n'apercevait qu'un petit nuage blanc qui, dans sa paresseuse immobilité, ressemblait à une odalisque enveloppée de voiles de gaz et mollement couchée sur son ottomane bleu. Ils arrivèrent bientôt à la colline voisine du village sur laquelle se trouvaient la croix et la chapelle. L'ascension de la colline, bien que courte et peu rapide, avait épuisé les forces, non entièrement revenues, de Stein. Il voulut s'arrêter un moment et se mit à examiner cet endroit. Il s'approcha du cimetière. Il était si vert et si fleuri qu'on aurait cru qu'il voulait éloigner de la mort l'horreur qu'elle inspire. Les croix étaient entourées de jolies plantes grimpantes dans les rameaux desquelles voltigeaient les petits oiseaux en chantant « Repose en paix ». Personne n'aurait cru que c'était là la demeure des morts si l'on avait lu à l'entrée cette inscription « Je crois à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, ainsi soit-il ». La chapelle était un édifice carré, petit et simple, fermé par une grille, et son modeste dôme était couronné par une croix en fer. La seule entrée était une petite porte tout près de l'autel. Il s'y trouvait un grand tableau peint à l'huile, représentant une des chutes de Notre Seigneur sous le poids de sa croix. Derrière, on voyait la Vierge, Saint Jean et les trois Maries. À côté de Jésus étaient les féroces soldats romains. Avec le temps, cette peinture avait fini par prendre des tons si sombres qu'il était difficile de discerner les détails. Mais le temps, aussi, avait augmenté la profonde dévotion qu'inspirait sa vue, soit que la méditation et le spiritualisme aiment peu les couleurs vives et criardes, soit à cause du cachet de vénération que le temps imprime aux œuvres d'art, surtout quand elles représentent des sujets de dévotion. Alors, en effet, elles semblent doublement sanctifiées par le culte de tant de générations. Tout passe et tout change autour de ces pieux monuments, tandis qu'ils demeurent sans avoir épuisé les trésors de consolation qu'ils répandent à pleine main. La dévotion des fidèles avait orné ce tableau de différents objets en feuilles d'argent, placés de telle manière qu'ils paraissent faire partie de la peinture. C'était une couronne d'épines sur la tête du Sauveur, un diadème de rayons sur la tête de la Vierge et des ornements aux extrémités de la croix. Cet usage étrange, ridicule même aux yeux d'un artiste, est bon et pieux aux yeux du chrétien. Mais, heureusement, la chapelle n'était pas un musée. Jamais un artiste n'avait passé à l'ombre de ses murailles. Il ne venait là que des hommes pieux et simples, et il n'y venait que pour prier. Les deux murailles latérales étaient couvertes du haut en bas d'ex-voto. Les ex-voto, déposés par la reconnaissance au pied des autels, sont les témoignages publics et authentiques des bienfaits reçus. Quelquefois, on les a déposés avant d'obtenir la grâce demandée. D'autres fois, on les a promis dans un moment de grand malheur ou dans des circonstances pressantes. Là se voient de longues tresses de cheveux qu'une fille aimante offrit comme son plus précieux trésor, le jour où sa mère fut arrachée des étreintes de la mort, des enfants d'argent attachés par des rubans couleur de rose qu'une mère affligée, voyant son fils mortellement blessé, donna pour obtenir son soulagement du Seigneur du secours. Des bras, des yeux, des jambes d'argent ou de cire, selon les moyens de celui qui les offrait, des tableaux représentant des naufrages ou autres grands dangers, au milieu desquels les fidèles eurent la naïveté de croire que leurs prières pourraient être entendues et exaucées par la miséricorde divine. Car on sait que les gens d'une raison élevée, les gens éclairés, ceux qui se disent les plus nombreux et qui se croient les meilleurs, ne croient pas que la prière soit un trait d'union entre Dieu et l'homme. Ces tableaux n'étaient pas des chefs-d'œuvre, mais s'ils l'avaient été, peut-être eussent-ils perdu de leur physionomie et de leur naïveté. Il y a quelquefois des personnes qui, se présumant douées d'un mérite supérieur, ferment leur âme aux douces impressions de la candeur que produisent l'innocence et la sérénité de l'âme. Ignorent-elles donc que la candeur va diminuant en même temps que l'enthousiasme s'éteint? Conserver, espagnol, et respecter les faibles vestiges qui restent encore de choses aussi saintes qu'estimables. N'imitez pas la mer morte dont les exhalaisons tuent les oiseaux qui volent sur ses vagues. Ne desséchez pas, comme elle, les racines des arbres à l'ombre desquels tant de peuples et de générations ont trouvé le bonheur. Parmi les ex-voto, il y en avait un qui surprit beaucoup Stein par sa singularité. Le corps de l'autel n'était pas parfaitement carré depuis le haut jusqu'en bas, mais se rétrécissait en ligne courbe vers le pied. Entre sa base et le pavé, il y avait un petit espace resté libre. Stein y aperçut dans l'obscurité un objet appuyé contre la paroi intérieure. À force d'y attacher ses regards, il découvrit que c'était une espingole. Elle était si volumineuse et son poids paraissait tel qu'on ne pouvait comprendre qu'un homme fût assez fort pour la manier, comme cela nous frappe souvent à la vue des pesantes armures du Moyen-Âge. Son embouchure était si large qu'une orange pouvait y entrer facilement, et ses diverses parties étaient grossièrement attachées ensemble avec des cordes. « Momo, dit Stein, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce véritablement une espingole ?» « Mais il me semble que oui, dit Momo, c'est bien visible. » Mais pourquoi une arme meurtrière dans ce lieu sain et paisible? On peut dire que c'est aussi bien placé là que le serait une paire de pistolets dans les mains de Jésus-Christ. Mais vous voyez bien, répondit Momo, qu'elle n'est pas dans les mains du Sauveur, mais à ses pieds, comme une offrande. C'est le jour où cette espingole fut apportée ici, et il y a bien des années de cela, qu'on donna à ce Christ le nom de Seigneur du Secours. Et à quelle occasion ? Demanda Stein. Don Frédéric, dit Momo en ouvrant de grands yeux, tout le monde connaît cette histoire. Est-ce que vous l'ignorez ? Tu oublies que je suis étranger.
C'est vrai, répondit Momo.
Eh bien, je vais vous la raconter. Il y avait dans ce pays un voleur de grand chemin qui ne se contentait pas de voler les gens, mais qui tuait les hommes comme des mouches, soit pour n'être pas dénoncé par eux, soit par caprice. Un jour, deux frères, habitants de ce village, eurent besoin de faire un voyage. Tout le monde leur fit ses adieux en leur souhaitant de ne pas rencontrer ce malfaiteur qui ne faisait grâce de la vie à personne et tenait tout le pays dans la terreur. Mais les deux frères, qui étaient bons chrétiens, se recommandèrent à Dieu et partirent, pleins de confiance dans sa protection. En arrivant près d'un olivier, voilà qu'ils se trouvèrent face à face avec le brigand qui s'avança à leur rencontre, son espingole dans les mains. Il porta son arme à l'épaule et les ajusta. Dans ce péril extrême, les frères se jetèrent à genoux en s'écriant « Secours, Seigneur !» Le scélérat déchargea son arme. Mais qui passa dans l'autre monde ? Ce fut lui-même, car son arme lui éclata dans les mains. Par un miracle de Dieu, l'espingole n'avait pu résister à la détonation. C'est elle que vous voyez devant vous, car, en souvenir du secours miraculeux, on l'attacha avec ses cordes et on l'a déposée ici, et l'on a donné au Christ le nom de Seigneur du Secours. Vous ne saviez donc pas cette histoire, donc, Frédéric ?
Je l'ignorais, répondit celui-ci.
Et il ajouta, comme répondant à ses propres réflexions, « Si tu savais combien de choses ignorent ceux qui prétendent tout savoir !»«
Allons, venez-vous, don Frédéric !» dit Momo après un moment de silence. « Songez que je ne puis m'arrêter davantage !»«
Je suis fatigué, répondit Stein. Va-t'en, je t'attendrai ici !»
« Eh bien, adieu !» dit Momo, qui se mit en route en chantant. « Adieu et que Dieu vous garde !» dit le proverbe vulgaire, « car le pauvre peut devenir riche. Mais le riche n'achète pas la science. » Stein contemplait ce petit village si paisible, demi-agricole, demi-marin, maniant d'une main la charrue et de l'autre la rame. Il ne se composait pas, comme ceux d'Allemagne, de maisons éparpillées sans ordre, avec leurs toits de chaume si champêtres et leurs jardins, ni comme en Angleterre, cachés sous l'ombrage de leurs arbres pittoresques, ni comme ceux de la Flandre, formant une rangée de jolies maisons de chaque côté du chemin. Il consistait en quelques rues, larges, quoique mal tracées, dont les maisons d'un seul étage, mais d'inégale hauteur, étaient couvertes de vieilles tuiles. Les fenêtres étaient rares. Plus rares encore étaient les vitres ou toute espèce d'ornement. Mais il y avait une grande place, en ce moment verte comme une prairie, et au milieu, une très belle église, et l'ensemble avait un aspect de propreté et de gaieté. 14 croix pareilles à celles qui étaient près de Stein étaient placées de distance en distance, et la dernière s'élevait au milieu de la place, en face de l'église. C'était le chemin de la croix. Momo revint, mais il n'était pas seul. Il était accompagné d'un monsieur âgé, grand, maigre et roide comme un cierge. Ce personnage portait une jaquette de gros drap gris, un gilet de piqué d'une couleur passée, orné de quelques reprises qui étaient de vrais chefs-d'œuvre dans leur genre, une ceinture de laine rouge comme en portent les gens de campagne, un chapeau à large bord avec une cocarde qui, jadis, avait été rouge, mais à qui le temps, la pluie et le soleil avaient donné une teinte de carotte. Sur les épaules de la jaquette, il y avait deux galons étroits en or problématique, destinés à assujettir deux épaulettes. Une vieille épée suspendue à un ceinturon, vieux comme elle, complétait ce costume demi-militaire et demi-paysan. Les années avaient fait de grands ravages sur le devant du crâne long et étroit de ce personnage. Pour suppléer aux défauts de son ornement naturel, il avait relevé et ramené par devant le peu de cheveux qui lui restait, en les retenant au moyen d'un ruban de soie sur le haut de la tête, où ils formaient une petite houppe d'une grâce toute chinoise.
« Momo, quel est ce monsieur ?» demanda Stein à mi-voix.
« Le commandant, » répondit celui-ci du ton le plus naturel.
« Commandant de quoi ?» dit Stein.
« Du fort de Saint-Christophe. »«
Du fort de Saint-Christophe ?» s'écria Stein surpris.
« Pour vous servir, » dit le nouveau venu en saluant avec politesse. « Mon nom est Modeste au Guerrero et je mets mes faibles services à votre disposition. » Ces compliments d'usage avaient été articulés d'une manière si compassée par ce personnage que Stein ne put s'empêcher de sourire en rendant au militaire son salut.
« Je sais qui vous êtes, » reprit Don Modesto. « Je prends bien part à vos contrariétés, je fais des vœux pour votre rétablissement et vous félicite d'être tombé dans les mains des Alerzes, qui sont véritablement de braves gens. Ma personne et ma maison sont à votre disposition et à vos ordres. Je demeure sur la place de l'Église, c'est-à-dire de la Constitution, car c'est ainsi qu'on l'appelle à présent. Si vous voulez bien me faire l'honneur de venir me voir, l'écriteau vous indiquera ma demeure.
« Puisque dans tout le village, il n'y en a pas d'autre, » dit Momo, « à quoi bon tant d'indications ?»«
Elle porte une inscription ?» demanda Stein, qui, dans la vie agitée des camps, n'avait pas eu l'occasion d'apprendre les usages et ne savait que répondre aux politesses de l'Espagnol.
« Oui, monsieur, » répondit celui-ci, « l'alcade dut se conformer aux ordres venus d'en haut. »
« Vous comprenez que dans un petit village, il n'est pas facile de se procurer une plaque de marbre avec des lettres d'or comme on en voit à Cadix et à Séville. » On fut donc obligé de faire exécuter l'écriteau par le maître d'école qui a une belle écriture et on devait le placer à une certaine élévation sur la muraille du conseil de la commune. Le maître d'école prépara une peinture noire avec de la suie et du vinaigre et, monté sur une légère échelle, il commença son travail en traçant des lettres d'un pied de hauteur. Par malheur, en voulant faire une gracieuse fioriture, il imprima une telle secousse à l'échelle qu'elle vint tomber à terre avec le pauvre maître d'école et le pot de peinture et les envoya rouler tous deux jusqu'au ruisseau. Rosita, ma gouvernante, qui aperçut la catastrophe de ma fenêtre et vit ce malheureux se relever noir comme du charbon, en fut si saisie qu'elle en resta 3 jours malade, au point qu'elle m'a vraiment donné de l'inquiétude. Pourtant, l'alcade ordonna au pauvre diable tout meurtri d'achever son travail. Vu que l'écriteau ne disait encore que « consti », il fallut donc que le malheureux se remît à la tâche, mais cette fois, il ne voulut pas se servir d'une échelle. Il fallut amener sur place une charrette et mettre dessus une table qu'on attacha avec des cordes. Perché là-haut, notre homme était si déconcerté de sa mésaventure qu'il ne pensa plus qu'à se hâter le plus possible. C'est pour cela que les dernières lettres, au lieu d'avoir un pied comme les premières, n'ont plus qu'un pouce de haut, et ce qu'il y a de pire, c'est que dans sa hâte, il laissa une lettre au fond de l'encrier, si bien que l'écriteau dit maintenant « Place de la Constitution ». L'alcade fut furieux, mais le maître d'école tint bon et déclara qu'il ne recommencerait ni pour Dieu ni pour ses saints et qu'il aimerait mieux monter sur un taureau de 8 ans que sur ses planches de danseur de cordes. Ainsi, l'écriteau est resté comme il était. Heureusement, il n'y a personne dans le village qui puisse le lire. Mais c'est vraiment dommage que le maître d'école ne l'ait pas achevé, car le commencement était très beau et faisait honneur à Villamar. Momo, qui portait sur l'épaule une besace bien garnie et qui était fressée, demanda au commandant s'il allait au fort Saint-Christophe.
« Oui, répondit celui-ci, et en passant, je vais voir la fille de Pedro Santalo qui est malade.
« Qui, la mouette ?» demanda Momo. « N'en croyez rien, je l'ai vue hier perchée sur un rocher et poussant des cris comme les mouettes, c'est pareil. »«
La mouette ?» s'écria Stern.
C'est un méchant surnom que Momo a donné à cette pauvre enfant, dit le commandant.
Parce qu'elle a de longues jambes, répondit Momo, parce qu'elle vit autant dans l'eau que sur terre, parce qu'elle chante, crie et saute de rocher en rocher comme les mouettes.
Cependant, observa Don Modesto, ta grand-mère l'aime beaucoup
et ne l'appelle pas autrement que Marie Salade, à cause de ses aimables espiègleries, de la grâce avec laquelle elle danse et chante, et de son talent pour imiter les oiseaux.
« Ce n'est pas à cause de cela, dit Momo, mais parce que son père est pêcheur et qu'elle nous apporte du sel et du poisson. »
« Et elle habite près du fort ?» demanda Stein, dont ces détails avaient piqué la curiosité.
« Tout près, répondit le commandant. Pedro Santalo, qui est de Catalogne, possédait une barque. Mais, ayant fait voile pour Cadix, il essuya une tempête et fit naufrage sur cette côte. Tout fut perdu, corps et biens, à l'exception de Pedro, qui voyageait avec sa fille. Le désir passionné de la sauver doubla ses forces et il réussit à gagner la terre. Mais ruiné, et il resta si triste et si découragé qu'il ne voulut pas retourner dans son pays. Puis il se mit à construire une cabane entre ses rochers avec les débris qu'il put recueillir de sa grande barque et il se fit pêcheur. C'était lui qui fournissait le poisson au couvent et les pères, en échange, lui donnaient du pain, de l'huile et du vinaigre. Il y a 12 ans qu'il habite ici, en paix avec tout le monde. Ils arrivèrent en ce moment à l'endroit où le chemin se divisait et ils se séparèrent.
« Nous nous reverrons bientôt, dit le vétéran. D'ici à peu, je viendrai me mettre à votre disposition et saluer vos hôtesses. »
« Dites de ma part à la mouette, cria Momo, que je ne suis pas inquiet de sa maladie parce que la mauvaise herbe ne meurt jamais. »
« Y a-t-il longtemps que le commandant est à Villamar ?» demanda Stein à Momo.
« Je crois bien. Il y avait déjà 101 ans qu'il était ici quand mon père est né. »
« Et qu'est-ce que c'est que Rosite à sa gouvernante ?»«
Qui ? Dame Rosite à Mystique ?» répondit Momo avec un geste moqueur. « C'est la maîtresse d'école. Elle est plus laide que la faim. Elle a un œil qui regarde au couchant et l'autre levant, et des trous de petites véroles profonds comme des cavernes. Mais, don Frédéric, le ciel se charge, les nuages courent comme s'ils étaient poursuivis par des lévriers. Pressons le pas.